Attends, je crois que c'est là, on est arrivé. Oui, ah oui. Oh là là, attends. Ouais, ah ça marche. Oh là là, bah dis donc. Ah, grande cour. Oula, ça c'est le genre où je me perds. Ah, c'est là. Allez, c'est parti. J'ai un peu la trouille. J'ai toujours l'impression, quand on fait des interviews, qu'il y a un avant-après, que je ressors nourrie de plein de trucs. J'espère que ça va être ça pour vous aussi. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une réalisatrice, une scénariste, une autrice, une militante aussi, avec un cœur énorme et très tendre. Enfin, c'est comme ça que je me l'imagine. Parce que, en vrai, Lisa Azuelos, je ne la connais pas du tout. À part à travers ses films comme « Tu es belle »,« LOL »,« Mon bébé », »,« Dalida ». Et j'ai aussi beaucoup aimé son dernier livre, sorti l'année dernière, « La vie en ose ». Du coup, un jour, je lui ai couru après dans une soirée pour lui proposer d'oser parler avec nous. Parce que j'aime bien, j'aime même beaucoup son regard sur les femmes. Alors à votre avis, elle a dit quoi? Ben elle a dit oui. Rendez-vous avec Lisa. Allez, on y va? C'est parti, allez j'ose.
Je ramène le courrier.
Ah bah très bien, magnifique.
Ça va?
Oui.
Vous voulez boire un truc? Un verre d'eau. Alors la petite pièce, elle est là-bas, oui. Parce que là au moins on est en calme, la petite pièce rouge. Je vais vous installer, je dis au revoir à mon autre rendez-vous. Y a quelqu'un d'autre ou pas?
Non.
C'est incroyable. On est dans un appartement haussmannien assez dingue. On est dans une pièce et on a la sensation d'être comme au théâtre. Il y a des costumes, il y a un gros doudou blanc. Il est énorme ce toutou. Il y a une chaise de cinéma là, comme quand on tourne avec Marqué de LOL. Waouh, ça le fait quoi. Il y a une atmosphère incroyable ici. Oh, j'ai l'impression qu'on pourrait aller vers le spirituel presque, chamanique même. Je sais pas, mais je sens que Lisa Azuelos va nous surprendre et que l'on va explorer des territoires que je ne connais pas du tout. J'espère que vous êtes prêtes. Allez, on va voir.
Eh ben, on s'assoit. Ouais, ça y est.
Ah bah génial.
Lisa,
oui.
Je vous ai un peu couru après. Je vous ai sauté dessus même, parce que je voulais absolument que vous fassiez partie de ce podcast. Là, c'était vraiment une demande, mais genre, c'était intrinsèque. C'était hors de question de continuer cette série de podcasts sans vous. Et vous m'avez
Here
répondu.
Here I am, comme on dit. Ben voilà.
Et quand je vous ai sauté dessus, vous m'avez dit « Non mais alors, j'ai plein de trucs à dire de toute façon. »
Bah, je voulais même faire un podcast sur ce thème-là. Et je me suis dit « Bon, bah c'est pris. » Tant mieux.
Pourquoi vous vouliez faire un podcast sur ce thème, justement?
Je crois que, comme beaucoup de jeunes filles et femmes, j'ai toujours vécu dans la terreur de ce mot ménopause. On a l'impression que c'est à peu près la même vibration que bombe nucléaire. Et en fait, quand c'est arrivé, déjà, je ne me suis pas rendu compte. Enfin, je me suis dit, tiens, j'ai plus mes règles. Je me dis, cool. Après, j'ai eu pas mal de galères du style un peu de dépression. J'ai grossi énormément, etc. Mais en fait, j'ai pas relié ça à la ménopause. Donc, je savais pas. Puis, j'avais des sueurs. Donc, de temps en temps, boum, mes vêtements étaient trempés en plein milieu d'un dîner. Donc, j'ai évité de porter de la soie. Hein. C'est le moment où j'ai préféré les sweatshirts. Et puis, moi, je savais pas. Je me disais, putain, vraiment, je suis en colère aujourd'hui. Ou alors, ah, c'est bizarre, j'ai ces bouffées de chaleur. Mais j'arrivais pas à mettre le mot en face, bizarrement. Je l'ai mis après que tout soit passé. Quand ça a cliqué sur le fait que je venais de traverser la ménopause.
Comment ça a cliqué?
Bah, ça a cliqué parce que, à force, ça a cliqué, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, les bouffées de chaleur. Qui sont quand même le signe un peu évident. Après, j'ai été voir pas mal de gynéco qui me disaient « faut aller voir un endocrino ». L'endocrino me disait « faut aller voir un gynéco ». Donc là, a commencé un peu le cercle, une errance. Et donc, j'ai commencé toutes mes recherches sur les hormones. Moi, quand je commence à prendre un sujet, je deviens dingue, quoi. Je sais pas pourquoi ça me dérangeait pas. Moi, j'ai tout le temps froid. Donc, d'un coup, d'avoir chaud, c'était un peu une bénédiction.
Mais alors, il y a eu un traitement ou il n'y a pas eu de traitement?
Alors, j'ai vaguement essayé de me mettre une crème à un moment dans l'intérieur du bras. Ça m'a saoulée.
Traitement hormonal.
Ouais. Et puis, je te dis, j'ai rencontré des médecins, Et je me suis dit, en fait.
Pourquoi
j'avais
ça
des problèmes de thyroïde. Mais ça m'a saoulée parce que ça ne marche pas, en fait. Enfin, sur moi. Et puis, moi, j'étais hyper contente de ne plus avoir mes règles, quand même. Enfin, il faut arrêter de faire croire que c'est horrible de ne pas avoir ses règles. C'est fabuleux, quoi. Enfin,
ouais, mais je comprends.
Non, bah, mais oui, vraiment, oui, bien, c'est bien horrible d'avoir ces règles tous les mois. Je veux dire, moi, j'adorerais que les hommes expérimentent un mois avec leurs règles. Et après, ils seraient tellement plus gentils avec nous, quoi. Je trouve que d'aller bosser quand t'as tes règles les deux premiers jours, c'est infect.
Mais vous savez qu'il y a, là, il y a eu des études en Angleterre. Il y a des femmes qui arrêtent de travailler quand elles, parce qu'elles souffrent tellement pendant la ménopause. Elles se sentent tellement mal au bureau, par exemple, où on leur fait remarquer qu'elles transpirent, où elles n'ont pas le droit d'aller aux toilettes plusieurs fois. Donc, il y a quand même un truc aussi. Peut-être vous, comme vous l'avez bien vécu, peut-être vous vous rendez pas compte.
Non, je me rends pas compte, mais bon, c'est du harcèlement. Clairement, ce que vous me décrivez.
Et vous dites que oser, c'est une manière de vivre, c'est un tempérament.
Mon livre s'appelait La vie en ose. Et oser, en fait, c'est le jour où j'ai compris que je risquais rien. En fait, notre pire ennemi, et ça j'en suis persuadée, c'est la honte. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est dans la Bible et personne ne le voit. Tout le monde s'est focalisé sur cette putain de pomme. Elle a mangé la pomme et du coup, ils se sont fait jeter. Pas du tout. Si tu relis l'histoire, elle mange la pomme. Donc, elle fait goûter à Adam. C'est vrai qu'elle incite Adam à manger la pomme. Le serpent les a incités. Bon, bref, c'est la faute à qui ? On s'en fout. C'est pas le sujet. Et après, quand Dieu arrive, ils virent qu'ils étaient nus. Ils eurent honte et ils se cachèrent avec une feuille, on dit, de figuier. Et Dieu, il dit pas quoi ? T'as mangé la pomme ? Il dit, devant moi, tu as honte ? Moi qui t'ai créé ? C'est la honte qui les coupe du paradis. C'est pas la... Bon, la consommation aussi. Donc, on peut retenir de la Bible, à consommer, c'est mal. Avoir honte, c'est très mal. En fait, il y a des émotions qui te coupent de ton mouvement, de ton énergie. Et la pire émotion, c'est la honte. Ensuite, c'est la culpabilité. Je crois qu'après, il y a la peur. Il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a l'amour. Il y a plus que sept péchés capitaux. Mais le pire péché, c'est vraiment la honte. Et ce qui empêche d'oser... C'est la honte. Il n'y a rien d'autre qui t'empêche d'oser, quoi.
Vous, vous avez eu honte de
Jamais.
Quelque chose ?
Mais honte de quoi ? En plus, moi, j'ai quasiment, à un moment, pesé 100 kilos. Et ben malgré tout, j'avais pas de problème à me mettre à poil quand je devais faire l'amour. Ou... C'est bizarre, ou même en maillot. Ou... Enfin, et je vois des filles tellement belles, tellement bien foutues. Elles osent pas faire l'amour avec un peu de lumière. Elles osent pas se mettre en maillot. Enfin, c'est dingue de pas... oser son corps, de pas oser soi-même. En fait, pour moi, vieillir, c'est se sentir de mieux en mieux. Parce que de toute façon, j'ai de moins en moins de trucs à cacher. Le corps va pendre, les rides vont se faire. Enfin, tout va être plus moche, au sens commercial du terme.
Et on souffre beaucoup d'agisme. Aujourd'hui, on en... Parce que dans tous les journaux qui parlent de l'anti-âge, des femmes à 50 ans, en fait, on nous met un peu de côté.
Déjà, je ne lis pas les journaux. Et puis, je ne regarde pas la télé non plus. Donc déjà, moi, j'ai réglé les problèmes comme ça. Hein. Mais n'utilisez plus ce mot de agisme. Quelle horreur ! Au secours !
Non, mais il est super moche, on est d'accord.
Bah alors, stop ! J'ai des copines qui ont 50 ans, qui étaient mannequins, qui redeviennent mannequins. Il y a plein de femmes qui disent, Sophie Fontanelle, qui est une super amie à moi, qui parle des rides, qui parle des cheveux blancs, qui parle de tout ça. Enfin, je veux dire, encore une fois, les injonctions, tu prends celles que... Tu vois, c'est pas parce que McDonald's existe que je vais y manger, quoi. Ben, une injonction, c'est pareil, c'est le McDo dans ta rue. T'en as rien à foutre, en fait. Si t'as envie de manger des légumes, tu passes devant, tu t'en fous. Et moi, une injonction, je sais même pas ce que c'est. Alors, quand j'étais jeune, oui, je voulais plaire, je voulais qu'on m'aime pour mon physique, etc. Mais moi, je me dis, ma chance, c'est que ça élimine tous les crevards, quoi. C'est-à-dire que un homme qui est pas capable de m'aimer moi parce que je suis vieille, mais tant mieux qu'il est pas dans ma vie. Enfin, j'ai bon débarras. Et quand j'étais jeune, il m'aimait parce que j'étais belle, bonne, baisable. Bah, j'ai eu beaucoup de je vais essayer de pas dire un mot méchant, de losers, voilà. Parce que c'est des losers, c'est des gens qui sont pas capables de faire face au féminin. Moi, je sais pas, quand on parle d'invisibilité, par exemple. Bon, celui-là, je l'ai entendu, je suis pas passée à côté. Mais tant mieux que je suis invisible. Je me fais beaucoup moins chier depuis que je peux être invisible. Et en revanche...
Ben, je comprends pas là, ce que vous me dites.
On te regarde et que t'as pas envie, c'est un viol, quoi. Moi, je me faisais beaucoup emmerder, par exemple. J'ai la chance d'être jolie. Et quand j'étais jeune, ben, la plupart des mecs avaient pas envie de me connaître. Ça avait envie de me niquer, de me baiser. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais Être invisible, c'est aussi choisir qui on a envie de regarder et par qui on a envie d'être regardé. Et si quelqu'un ne me regarde pas, je ne vais pas en souffrir. Enfin, c'est fou de souffrir de ça. Est-ce que tu souffres parce qu'un arbre ne t'a pas regardé ? Non, et qu'est-ce que tu en sais qui ne t'a pas regardé ? Et moi, je me sens regardée par les arbres, par exemple. C'est con. Je me sens regardée par les bébés dans la rue. Je me sens regardée par tout, en fait. C'est la relation qui fait que tu regardes et que tu es regardée. Ce n'est pas l'autre.
C'est... Alors, je suis d'accord. Et en même temps, par exemple, Michel Bernier, à notre micro, elle disait qu'elle, elle ressentait une certaine solitude, en fait, avec à son âge et depuis ses 50 ans passés, qu'il y avait quand même quelque chose qu'elle la ressentait aussi sur les tournages. Il y a quand même, malgré ce que vous dites, hein, j'entends quand même des femmes dire, même des comédiennes, dire c'est quand même difficile d'être moins regardée, moins demandée.
Je pense qu'il n'y a aucun problème qui sorte à la ménopause qui n'était pas déjà là. Voilà. Et je trouve que quand t'es jeune, t'as rien de mieux à faire que de te préparer à être vieille. Voilà. Et c'est pas que t'anticipes un truc moche, c'est que ça va t'aider à être jeune mieux, en fait. Mais je pense que la solitude de Michel Bernier, je la connais pas, en plus je l'adore, je pense qu'elle était là avant. Donc avant, elle pouvait le cacher parce qu'elle faisait la grande gueule, elle faisait marrer, nana, puis que là, peut-être, elle est un peu plus déprimée ou la ménopause a tapé dans des hormones, de la joie, de la sérotonine, de la dopamine, enfin. Tout oui. Ça, c'est pas rien, quoi. On est fait de ça. On est fait de ça. Donc quand t'as des déficiences de ça, bah, t'as plus envie de te marrer, t'as plus envie... Puis t'as envie qu'on te prenne dans les bras, et puis t'as envie d'être peut-être plus une femme, t'as envie que quelqu'un s'occupe de toi. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un homme qui s'occupe de moi, qui me prend dans ses bras. Mais bon, ça n'arrive pas. Mais je ne peux pas en être malheureuse. Je n'y arrive pas, quoi. Je suis heureuse déjà d'être vivante, de ne pas être malade, d'avoir des enfants, d'avoir des amis. Je ne sais pas, la vie, elle est magnifique quand même. Quand tu as la chance d'avoir ce moment où les parents meurent et où toi, tu es encore un peu jeune, parce que en fait, je me sens hyper jeune quand même, et de ne plus avoir tes règles, ben, c'est l'adolescence, hein, c'est fabuleux.
Et avec les hommes, alors justement, si c'est l'adolescence, ouais. Et si c'est fabuleux, j'ai envie de vous dire comment ça se passe
comment
sexuellement.
Comment ça se passe sexuellement?
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que s'il y avait
alors,
la
vous parler de mon
plus
vagin.
Les règles. Non, mais en vrai.
Non, vous avez vu, c'est vrai, j'ai dit je vais vous parler de mon vagin, ou je vais dire je vais vous parler de mon cœur.
Bon, bah,
déjà,
oui.
On a compris le problème. moi, j'ai du mal à relier les deux. Donc, bah, en fait, j'ai plus de compagnons depuis environ 10 ans. Et même le compagnon que j'avais n'était pas forcément archi porté sur la chose non plus. Donc bon, moi j'ai toujours senti que mon énergie était sexuelle, entre autres, mais c'est une énergie que j'adore. C'est pas que j'attends de tomber amoureuse pour aller faire l'amour. Pour moi, j'ai besoin d'avoir des nuits d'amour avec des gens, même si je les connais pas. C'est pas un problème pour moi. Enfin, le problème, c'est après d'apprendre à les connaître et de les supporter, puis qu'ils me supportent, et tout ça, c'est plus compliqué pour moi. Mais juste une jolie nuit d'amour, pour moi, ça a toujours été un peu mon dessert, quoi. Ma joie. Donc, bah, la chance, c'est qu'au moment de cette ménopause, bah, déjà, t'as plus à te poser de problème de est-ce que tu tombes enceinte, nanana, enfin bon, moi, j'avais quand même un petit souci de constipation, tu vois, de contraception. De contraception. Et là, le fait de pouvoir me dire je peux faire l'amour sans contraception, déjà, c'est une liberté fabuleuse. Mais une joie intense que je ne connaissais plus. Donc, bon, déjà, il y a ça. Et puis, bon, bah, moi, j'ai eu la chance de pas... Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de sécheresse, des trucs comme ça. Bon, moi, j'ai la chance de pas être concernée par ça. Et puis, j'ai eu aussi la chance que ça tombe en Tinder, quoi. Enfin, c'est quand même... Donc, toute ma période, on va dire, consommatrice, ce que je n'encourage pas les gens à faire. Mais bon, moi, il se trouve que ça
donc
me faisait du bien.
Vous êtes mis sur Tinder.
Je me suis mis sur Tinder,
une appli.
Entre autres. Ouais, enfin, oui, j'ai fait virer de Bumble. Je sais, parce que quand je suis arrivée en France, on m'a dit « Vous n'êtes pas Lisa Azuelos ». J'ai dit « Bon, pas cool ». Fallait prouver que... Ou alors j'avais dû mentir sur mon âge, ou je sais pas. Enfin, ce que tout le monde fait. Bon, moi, ils me sont tombés dessus, puis j'ai pas réussi à récupérer mon compte. Mmh. Mais bref, je me suis mise sur Tinder et j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai rencontré tout de suite des gens super qui ont été d'abord un peu mes sex friends. Là, j'ai toujours en fait quelqu'un que je vois de manière épisodique aux États-Unis et avec qui j'ai vraiment des relations très épisodiques, mais très parfaites. Où le cœur n'est pas engagé. Pour moi, c'est un luxe parce que je n'ai pas encore bien compris comment ça marchait, le cœur émotionnel. Voilà. Mais le reste, non, ça se passe bien.
Et comment Putain, c'est bien. Moi, ça donne très envie de faire l'amour, en fait.
Bah oui. Bah,
non, mais c'est ça. Enfin, ça fait du bien.
C'est magnifique de partager une nuit d'amour avec quelqu'un qui va vous respecter. Après, il ne faut pas tomber... sur un gars qui va jouer en deux secondes, qui sait pas bien faire l'amour et tout ça, parce que là c'est chiant quoi. À nos âges, c'est
comment
possible.
On fait parce que c'est pas marqué.
En fait,
sur Tinder,
ma chance, c'est que en fait, je me fais évidemment pas du tout draguer par les gens de mon âge, qui sont pas du tout intéressés par moi. Et moi, c'est vrai que bah du coup, quand un jeune beau garçon a envie de faire l'amour avec moi, bah, en général, je dis oui quoi. voilà. Ouais. Et eux, ils ont pas de problème en fait, parce qu'ils savent qu'ils vont pas s'engager avec nous. Ils ont pas peur, tout marche bien. Voilà.
Mais moi, je voudrais juste revenir un truc sur le cœur. Et, et on va faire comment pour le cœur, alors?
Bah, je travaille dessus, mais c'est plus long pour moi, ça.
Et c'est quoi comme travail?
Bah, c'est la blessure... c'est ma blessure d'attachement, une blessure d'abandon, une blessure de trahison. Enfin, les 5 blessures de Louise Bourbeau que tout le monde connaît maintenant. Enfin, je ne sais pas en France, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est assez répandu.
Et comment vous travaillez dessus?
Bah, je vois dans mes relations.
Vous voyez qu'il y a quelque chose.
Je fais plein de choses. Je fais plein de retraites, plein de stages.
En France, aux États-Unis.
Aux États-Unis, c'est plus évolué à ce niveau-là. Ouais. Mais ici, il y a des gens extraordinaires.
Par exemple, une retraite. Quel genre de retraite vous pourriez conseiller?
Bah là, par exemple, la prochaine retraite que je vais faire, c'est pour faire circuler l'énergie sexuelle et apprendre à la ressentir et à la faire circuler dans le bassin, avoir un bassin vivant et vibrant. Et moi, ça m'intéresse. J'ai vraiment, en fait, je me suis rendu compte quand mes parents sont morts, je me suis dit, il y a intérêt à être super vivant quand on meurt. C'est horrible d'être déjà mort avant la mort.
Non, mais alors moi qui fais jamais l'amour, là, je crois que c'est mon jour.
Non, mais ça,
je crois que c'est mon jour. Il y avait une rencontre, en fait.
Mais tu peux faire l'amour.
C'était un signe. C'est l'univers qui m'envoie là maintenant, ce matin.
Tu peux faire l'amour avec toi-même et c'est ça qu'on va apprendre aussi. Mais ouais, mais c'est pas rien.
Ouais, ouais.
Bah, c'est énorme déjà. Et c'est pas forcément que la masturbation, en fait. C'est aussi un rapport à soi, faire l'amour à soi-même. Et c'est ça, moi, que je commence à apprendre et à comprendre. J'ai eu un comportement extrêmement destructeur, extrêmement addictif, avec des drogues, avec l'alcool quand j'étais jeune, avec la nourriture. Au moment de la ménopause, bah, j'ai décompensé avec la nourriture. Bon, donc se sortir des addictions, c'est aussi se sortir des traumas et rentrer en amour avec soi.
Comment on sort de l'addiction, par exemple, de la bouffe? Parce qu'effectivement, tout le monde en parle au niveau de la ménopause. On reçoit beaucoup, beaucoup de messages de femmes qui nous disent « Mais c'est vraiment compliqué pour nous, comment on fait ?» Vous, vous avez fait comment?
Moi, dans un premier temps, ça m'a éclaté de pouvoir manger. Moi, j'avais l'impression d'être Gérard Depardieu quand j'allais au restaurant. Je me disais « Allez, amenez-moi les poulardes et les machins et les trucs. » J'avais l'impression d'être au Moyen-Âge et qu'il fallait que je me remplisse. Et puis bon, il y a un moment, je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de me remplir autrement. On peut se remplir les yeux avec la beauté, avec les poumons, avec l'air, bah, le sexe avec un homme ou avec soi, ou avec... On peut se remplir d'un câlin avec des amis. Je veux dire, tout à coup, on peut aller chercher autre chose. Et puis j'ai compris à quel point j'étais blessée et que je compensais avec la nourriture. Donc, moi, j'ai jamais réussi à me frustrer, je peux pas. Donc, au contraire, j'ai commencé à aller guérir mes blessures. Et une chose qui m'a énormément aidée aussi, c'est la psilocybine, les champignons hallucinogènes. Et ça, ça m'a vraiment redonné une ouverture à moi, à la beauté de moi, que j'ai adoré, en fait.
Mais comment, alors, si vous allez...
Comment? J'ai fait 3-4 cérémonies dans des lieux où c'était légal. Quand on est sous champi, en fait, on a le champignon qui te prend un peu par la main, qui dit, tiens, je vais te montrer un aspect de ta vie qui est bloquant pour toi. Et en général, ça s'occupe de ton enfant, de qui tu étais quand tu étais enfant. Et tout à coup, par exemple, moi, j'ai vu que quand j'étais enfant, j'étais placée dans des pensions terrifiantes. Et je me suis revue en ayant très, très faim. Mais j'avais très faim quand j'étais petite parce qu'on me donnait pas à manger. On me disait, si tu finis pas ton assiette, tu pourras pas faire ça. Et c'était des épinards ou des choses que je voulais pas manger. On me tabassait pour manger. Enfin bon, donc je me forçais aussi à pas manger. Enfin, donc forcément, j'ai un rapport à la nourriture qui est compliqué. Mais tout à coup, j'ai vu cette petite fille et j'ai ressenti sa faim sous champignon. Mais après, moi, quand j'ai faim et quand je mange, mais je ne me juge plus. Je dis, ok, je nourris la petite fille qui a été blessée. Mais peut-être que aussi je suis une adulte qui peut la nourrir autrement. Tu vois, et tout à coup, je rentre en compassion avec moi, avec cette faim, au lieu de me juger, de me dire, espèce de grosse vache, pourquoi tu bouffes? Tu vois, c'est pas la même. Hein. Parce que quand j'ai fait vraiment ma grosse dépression, j'ai quitté le compagnon avec qui j'étais. Et puis, en fait, ce vide m'a été insupportable. Je venais de faire Dalida, où j'allais rentrer dans l'histoire de Dalida. C'est comme si elle m'était rentrée en moi. On va dire que l'égrégore de Dalida est rentré en moi. Et j'ai fait une dépression. Où je suis restée devant ma télé pendant un an à pouvoir juste bouger le pouce pour changer les chaînes de télé, quoi. Enfin, j'ai vraiment eu un truc hyper violent. Et tout le monde m'a dit, il faut que tu te mettes sous antidépresseur. Et j'ai une peur bleue de l'addiction et des antidépresseurs. Et je me suis dit, je vais y arriver autrement. Et donc, ce mal-être m'a obligée à aller chercher le bien-être. Et là, j'ai vraiment mis la gomme et les ostéos. Enfin, tout ce que je pouvais trouver. Et puis, c'est pas fini, parce qu'en fait, tout à coup, je suis allée à la rencontre de moi-même, et j'ai vu que j'étais pas si géniale, qu'est-ce qui était vraiment blessé, qu'est-ce qui avait mal, où était la petite fille, où était la femme, où était l'homme en moi aussi. J'ai vu que j'étais un sale mec aussi, et que...
Ça veut dire quoi, je suis un sale mec?
Je peux mal me traiter, je peux me juger, je peux me parler mal, je peux abuser de moi, je peux faire des choses sans mon consentement.
Vous avez pas envie de faire un film sur tout ce que vous racontez?
Si, mais je distille tout ça dans mes films. Mais bon, jusqu'à présent, j'avais, je pense, beaucoup de choses à régler avec mon rapport avec ma maman.
On peut dire, on peut en parler de votre maman, non?
Oui, oui, que c'est Marie Laforêt, qu'elle était une femme incroyable, mais pas une mère fantastique, on va dire. Et c'est vrai que depuis qu'elle est morte, je l'ai... En fait, quand elle est morte, j'ai eu une expérience assez mystique. J'ai ressenti tout de suite son amour. Comme si elle me disait, dans mon corps de pierre, l'amour ne pouvait pas transpirer, ne pouvait pas transparaître. Je n'ai pas pu te donner l'amour parce que c'est comme un immeuble sans fenêtre. Tu vois, il n'y avait pas d'endroit où laisser filtrer l'amour, où laisser passer l'amour. Mais l'amour était là, enfermé dans un corps de pierre. Et dans un cœur de pierre aussi, probablement, qu'elle a elle-même refermé, puisqu'elle a témoigné qu'elle avait été violée à l'âge de 3 ans, que, bon, elle a eu, du coup, un rapport aux hommes et à la sexualité et à l'attachement compliqué, donc aux enfants aussi. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à avoir une maman quand elle est morte. Et aujourd'hui, je suis toujours en lien, parce que je crois que quand on perd quelqu'un, on est toujours en lien à l'intérieur de soi. Les gens pensent qu'ils perdent quelqu'un, mais la relation est toujours vivante. Et c'est toi qui l'as créé, la relation, en fait. Tu peux y penser, pas y penser en mal, y penser en bien, te nourrir de cet amour, ou au contraire, le rejeter, etc. Et c'est vrai que dans mes films, jusqu'à ce qu'elle meure, mon grand souci, c'était pourquoi j'ai pas eu de maman, comment je peux être une bonne maman, pourquoi les mamans se sentent coupables, pourquoi on n'en fait jamais assez, pourquoi on trouve qu'on est des nazes mamans, ou pourquoi on trouve que les enfants, quand ils sont ados, ils se rebellent et que c'est de notre faute. Ou... Bon, toutes ces questions-là me passionnaient. J'avoue que depuis que mes enfants sont grands, ces questions-là me passionnent un peu moins. Et surtout, j'ai l'impression d'y avoir beaucoup répondu, d'avoir parlé du nid vide, parlé de la relation à l'adolescence, parlé dans Comme tu es belle, des relations entre amis, mais surtout avec les hommes. Mon premier film aussi, que j'ai co-réalisé avec mon mari, s'appelait Ainsi soit-elle, qui était justement à 25 ans. Est-ce que je décide de me marier, de faire un enfant? Est-ce que je décide d'être libre? Est-ce que je décide de baiser sans amour, ou plutôt de me préserver jusqu'à l'amour? Comment? Enfin bref, toutes ces questions-là, j'en ai beaucoup parlé. Et c'est vrai que pour moi, la sphère intime est le berceau de la sphère sociale.
Et vos enfants, vos deux filles, là, vous avez parlé avec elles de tout ça, de ménopause, de militantisme, de tout ça?
Elles m'ont
vu. Ou ça les saoule, ou ça les gave?
Non, mes filles, elles sont très militantes. Ce dont je suis plus fière avec mes enfants, c'est qu'ils savent qui je suis. Aujourd'hui, c'est eux les adultes. Et moi, je suis la femme ménopausée et c'est super. Moi, je me repose sur eux aujourd'hui.
Et la ménopause, vous en avez parlé avec elle?
Bah oui, mais moi, je leur dis que c'est extra. Elles me disent, t'as de la chance, t'as plus tes règles. Enfin, voilà, moi, je leur dis franchement, je vous le dis, n'ayez pas peur de la ménopause parce que c'est un kiff, quoi.
On a un petit jeu, c'est j'ose ou j'ose pas.
Allez.
Est-ce que vous osez pas dire votre âge?
Ah bah, j'ose.
Vous avez quel âge?
J'ai 58 ans.
Oh, c'est cool.
Bon, à part sur Tinder, parce que les algorithmes te classent dans des catégories. Donc, par exemple, si tu mets que t'es OK de rencontrer quelqu'un qui a 50 ans, bah moi, je suis passée au-dessus. Donc, on ne va pas me rencontrer, mais peut-être que si on me rencontre, on sera content de me rencontrer. Donc, je ne laisse pas à l'algorithme le choix, en fait.
Donc, vous dites...
J'appelle ça le choix dans la data.
Mais alors, donc, vous avez dit que vous aviez quel âge?
Je ne sais plus, parce qu'à l'époque où j'ai fait mon compte, je crois que j'ai dit que j'avais 48 ou un truc comme ça.
Est-ce que vous osez ou vous osez pas dire que vous êtes féministe?
J'ose.
Est-ce que vous osez pas dire que vous êtes puissante?
Ah bah, j'ose.
Ça, vous êtes puissante, ça, c'est clair.
Mais ça ne m'empêche pas d'être impuissante.
Vous osez pas dire que vous sentez belle?
Ah bah, j'ose le dire, oui.
Vous sentez belle?
Ouais.
Ça, c'est une force, hein, vous savez. Ouais.
Mais j'ai eu la chance aussi d'être belle. Enfin, dans les critères, on va dire, de la société, gna gna gna, les fameuses injonctions, là. j'ai eu mon moment de gloire, de beauté. Je plaisais, enfin bon. Mais en fait, je me sens beaucoup plus belle aujourd'hui que je suis un peu, voilà, plus ridée, plus grosse, plus... Mais ça, je sais pas, ça me fait marrer.
Est-ce que vous osez ou vous osez pas dire merci à ceux qui vous ont aidé?
Ah oui, ça, je le dis beaucoup. Et puis surtout, je le dis à ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues.
c'est
le meilleur merci,
ouais.
Celui-là. Parce que sans eux, il faut quand même la puissance des vents contraires pour que l'avion décolle, quoi. Donc, bon, merci.
Vous osez dire ou vous n'osez pas dire que vous avez besoin de tendresse et d'attention?
Maintenant, je le dis beaucoup. J'ai eu très peur de ma vulnérabilité. Et je pense que c'est la grande erreur du féminisme, c'est d'avoir voulu être aussi forte que les hommes. On aurait dû dire aux hommes, vous pouvez être aussi faibles que nous, parce qu'ils le sont, et d'autres encore plus que nous parfois.
Mais on n'est pas forcément faibles, nous, d'ailleurs.
Mais on est faibles, je suis désolée, quand on a ses règles, quand on est...
Oui.
C'est normal d'être faible. Il y a des moments dans la vie, dans la journée, où on est faible. Mais c'est OK d'être faible. C'est ça qu'on n'a pas compris.
Non, mais ça, je suis d'accord, c'est OK d'être vulnérable.
C'est OK d'être vulnérable.
Bien sûr.
Et les hommes, les pauvres, on ne leur a vraiment pas dit ça, quoi.
Est-ce que vous osez dire non quand c'est non?
Alors, j'ai appris, mon premier livre s'appelle « Manuel à l'usage des filles qui auraient dû dire non
».
Et j'ai eu beaucoup de mal à dire non. J'ai appris le non. Et j'espère que maintenant, je sais dire non. En fait, ce n'est pas dur de dire non, c'est dur de dire non en live. Parce qu'on rentre chez soi, on dit « Putain, pourquoi j'ai dit oui ?» Puis après, on peut rectifier le tir. Mais c'est le live du non qui est difficile. Mais j'y travaille beaucoup. Mais le oui aussi, il est difficile. Oui et non, c'est pas compliqué. Merci et bonjour et voilà, quoi.
Moi, je sais pas dire non, donc je comprends.
Ah bah, il faut dire non. C'est magnifique le non. En fait, tu dis pas non à l'autre, tu dis oui à toi. Et ça,
c'est
très con, mais ça m'a changé la vie, quoi.
Oui. Est-ce que vous osez dire quand vous êtes fatiguée?
Ah bah, de toute façon, je m'endors. J'ai aucun... Non, mais je m'endors chez les gens, je m'endors en boîte, je m'endors au restaurant. C'est... Voilà, moi, quand je suis fatiguée, je m'endors. Donc, en fait, j'ai même pas le temps de le dire, je crois.
Et est-ce que vous osez dire quand ça va pas?
Bah oui. Mais, en fait, quand ça va pas, c'est un signal que quelque chose qui va veut se réveiller, quoi. Ça que j'aime bien maintenant, dans quand ça va pas. Avant, je me disais, ça va pas, de toute façon, j'y arriverai jamais, de toute façon, personne ne m'aime, de toute façon, enfin, j'ai eu ces phases-là quand même. Hein. Je viens de là, moi.
Et vous osez pas dire que vous avez connu des échecs?
Oh bah, j'en ai tellement connu. J'ose, bien sûr. Vous savez qu'aux États-Unis, on n'engage pas quelqu'un qui n'a pas eu d'échec. Hein. C'est la grosse différence pour moi entre les États-Unis et la France. Et on te dit, tu t'es relevé de combien d'échecs? Ici, c'est, ah bon, t'as eu un échec? Oui, tu dégages. Et en fait, ce droit à l'erreur, ben, c'est un droit tellement humain qu'on dit l'erreur est humaine et puis après on oublie. C'est chiant, hein, moi je déteste ça.
C'est quoi votre dernier échec?
Ben, c'était justement un mec sur Tinder. J'ai cru qu'il était amoureux de moi, puis pas du tout. Je me suis dit, putain, j'en suis encore là à mon âge. C'est horrible.
Vous avez des yeux magnifiques.
Ah ben, c'est gentil, bizarre. Merci.
C'est fou, c'est vrai. Hein. C'est merci. Vrai que vous avez un charme fou.
Ah ben, tant mieux, merci.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui vous écoutent là?
Bah déjà, de ne pas avoir honte. de pas se sentir coupable, et puis de se demander dans quelle partie de leur corps elles se sentent vivantes, et puis de se demander dans quelle partie de leur corps elles se sentent pas vivantes, et puis de faire un petit cadeau à cette partie pas vivante aujourd'hui, quoi.
Moi, je vais me faire des cadeaux partout, dans toutes mes parties, en fait. Merci beaucoup, Lisa.
Merci, merci Elsa.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette conversation avec Lisa m'a apporté comme un vent de liberté. Je dirais même que j'ai très envie de libérer certains chakras. Vous voyez ce que je veux dire ? Si Lisa Zuelos n'a pas tout de suite fait le lien entre ses symptômes et la ménopause, elle a su trouver des solutions pour les affronter malgré le manque d'informations. À commencer par se débarrasser de la honte. Car oui, quand vient le moment de la ménopause et du tabou qui l'entoure, la honte peut peser lourd sur les épaules de certaines d'entre nous. Pour en savoir plus sur les conséquences concrètes que ce sentiment peut avoir sur nos comportements et notre mal-être, je suis allée voir ma complice, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, Sylvie Chocron. Sylvie, dites-moi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des hontes qui concernent particulièrement les femmes ?
Il y a une honte vraiment de ce qui se passe dans le corps de la femme, ça c'est sûr. Il y a une honte par rapport à tous les attributs féminins. Donc toute notre vie, on a eu honte d'avoir nos règles, on a eu honte qu'on voit qu'on avait nos règles. Et évidemment, la ménopause, on a honte parce qu'on n'a plus nos règles.
Ok, ça nous colle à la peau. Mais ça prend quelle forme avec la ménopause ?
Dans ménopause, il y a pause. Et donc, pause, ça signifie un arrêt. On est mise sur la touche pause, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelque chose qui continue différemment. Quand vous mettez un appareil sur pause, il s'arrête. Et donc, du coup, l'arrêt de la fertilité, l'arrêt des règles, pour les femmes, ça signifie aussi l'arrêt de tout. L'arrêt de la sexualité, l'arrêt de l'efficacité sur le plan intellectuel, l'arrêt du rôle dans la société, donc elles n'ont plus de rôle. Et donc, du coup, forcément, elles vont avoir honte d'être ménopausées. Alors, ça va jusqu'à un tel point que, par exemple, si vous avez plus de 50 ans et que vous êtes dans une pièce, dans une salle de réunion et que vous avez un peu chaud, vous avez honte de dire que vous avez chaud parce que tout le monde va penser que vous avez des bouffées de chaleur. Donc, vous n'avez pas le droit de dire, même si la pièce est surchauffée, s'il fait 30 degrés et que tout le monde a chaud, vous n'allez pas vous autoriser à dire « il fait chaud » parce que sinon, tout le monde va vous regarder en se disant « bon, elle est en pleine ménopause ».
Sylvie, quand vous parlez d'arrêt de l'efficacité sur le plan intellectuel, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Il y a ce qu'on appelle « brain shame », une honte au niveau cérébral. Comme en plus ça correspond à une période où parfois elles ont plus de mal à être disponibles sur le plan intellectuel, elles ont du mal, elles sont dans un espèce de brouillard mental, intellectuel, elles ont du mal à faire attention, elles ont du mal à mémoriser, elles ont du mal à mener une réunion où il y a plein d'interlocuteurs, parce qu'elles sont moins disponibles intellectuellement. Pas parce qu'elles sont moins intelligentes, mais parce qu'elles ont du mal à dormir, parce que leurs hormones font qu'elles sont moins disponibles intellectuellement. Du coup, elles vont avoir l'impression qu'elles sont véritablement moins efficientes. Et donc, qui dit honte, dit inhibition. Donc, les femmes vont se conformer à ce qu'elles pensent que la société pense d'elle. Donc du coup, si elle pense que la société considère que les femmes à la ménopause doivent être mises à la poubelle, elles vont se mettre elles-mêmes à la poubelle.
Concrètement, Sylvie, ça veut dire que certaines d'entre nous, comme moi d'ailleurs, parce que je peux avoir ce sentiment-là, ne se sentent plus bonnes à rien ?
Moi, j'ai également, à part mon activité de recherche, j'ai aussi une activité clinique, et j'ai vu arriver en consultation des femmes de plus de 50 ans qui étaient victimes de cette discrimination et qui, du coup, étaient persuadées qu'elles étaient en train de devenir démentes, qu'elles étaient en plein déclin cognitif, tout simplement parce qu'elles sont victimes au travail d'une forme de harcèlement où on leur pointe tous leurs défauts. On leur dit, là, ce dossier, t'as mis 3 fois plus de temps que ta collègue de 35 ans. Là, t'as pas été du tout efficace pour gérer ce projet-là. T'as pas été du tout efficace pour animer cette réunion. Et donc, au fur et à mesure, ce harcèlement, il va conduire à une véritable inhibition de ces femmes qui, véritablement, elles vont se conformer à ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire rien.
Alors, Sylvie, Dernière question, comment faire pour éviter ce cercle vicieux ?
C'est important d'être conscient de ce mécanisme-là, parce qu'on peut déjouer ça et on peut dire, voilà, ben, ce que la société attend de moi, c'est qu'après 50 ans, je ne sois plus bonne à rien. Mais moi, je sais que ce n'est pas vrai, je sais que j'ai appris des choses, je sais que je me suis bonifiée dans certains domaines. Et moi, mon rôle, c'est de pouvoir montrer à la société que j'ai encore plein de choses à offrir, que j'ai encore plein de capacités et que je vais peut-être même me révéler dans certains domaines dans lesquels je n'osais pas me révéler. Après 50 ans, on se connaît aussi beaucoup mieux et donc on a pris confiance en nous, on sait quels sont nos points forts, on sait quels sont nos points faibles et on peut justement s'autoriser à mettre en valeur nos points forts pour pouvoir être encore plus performante que ce qu'on a été jusqu'à présent. D'autant que souvent après 50 ans, si on a eu des enfants, ils sont plus grands, ils nous demandent encore des choses, mais c'est peut-être moins prenant. Et donc, on peut s'autoriser, à partir de 50 ans aussi, à s'épanouir sur le plan professionnel, là où on s'était peut-être un peu contraint parce qu'on n'avait pas la disponibilité matérielle. Donc, on peut maintenant s'autoriser à s'épanouir beaucoup plus que ce qu'on a fait entre 30 et 50.
Merci à Sylvie Chocron de nous avoir aidé à démonter de vieilles croyances qui nous freinent et nous aider à trouver les armes pour faire la peau aux clichés sur la ménopause. Je vous encourage à aller lire son livre « Dans le cerveau 2 ». Un immense merci à Lisa Azuelos d'avoir partagé avec nous sa force et son ouverture d'esprit. Et prenez plaisir à revoir tous ses films, c'est ma prescription bien-être du jour. Je tenais à dire que la thérapie sous champignons hallucinogènes est en France encore en phase expérimentale et encadrée à l'hôpital. Ne le faites pas seul chez vous. Lisa Azuelos l'a faite sous contrôle à l'étranger et ça n'engage qu'elle et son expérience. Cet épisode a été réalisé et monté par Marie Braun, mixé par Étienne Gratianet, et la musique a été composée par Alban Claudin. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao !